Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nicole Niesotto. Nicole, tu es vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Tu as longtemps eu la chaire sur les questions auprès d'OCNAM et tu publies début janvier aux éditions Talendier un livre intitulé « L'Europe demain ». Alors, c'est justement d'Europe aujourd'hui et demain dont on va parler, avec ce coup de Trafalgar, si j'ose dire, qui est apparu en septembre, au moment où on pensait que le président Biden allait vers une politique plus multilatéraliste que son prédécesseur. Il n'arrêtait pas de dire que l'Amérique était de retour. Ce retour a eu pour les Français un goût amer, puisque le contrat obtenu de haute lutte de vente de sous-marins à l'Australie a été cassé au profit des États-Unis. L'ambassadeur a été rappelé, depuis il y a eu un coup de fil entre le président Macron et le président Biden. Est-ce que les choses sont revenues comme avant? Est-ce que c'est un incident de parcours dans les relations franco-américaines ou est-ce que ça traduit quelque chose de plus lourd?
Je crois que c'est à la fois une surprise et en même temps un événement dans la logique de ce que devient l'Amérique. La surprise, c'était parce qu'effectivement, on pouvait espérer qu'avec Biden, au moins la politesse internationale, peut-être pas le fond de la politique, mais au moins les bonnes mœurs, les usages, la courtoisie, le fait qu'on prévienne qu'on va faire un sale coup avant de faire le sale coup, etc. On pouvait espérer que tout ça redeviendrait dans les normalités diplomatiques. Et puis, ça n'a pas été le cas, puisque, comme l'a dit notre ministre Jean-Yves Le Drian, ça a été vraiment une surprise, un coup d'épée dans le dos, un manque de confiance, etc. Il y a eu une vraie surprise, je dirais presque événementielle. En même temps, quand on regarde le fond de la relation franco-américaine, même si les Français se sont réjouis évidemment que Trump ait perdu les élections et que Joe Biden soit devenu le nouveau président des États-Unis, nous étions les seuls en Europe à ne pas être d'un enthousiasme délirant sur l'élection de Joe Biden. Et déjà, notre ministre avait dit, mais pas seulement, enfin, l'ensemble des Français, je crois, pensaient que Biden, c'était très bien, mais qu'il fallait pas se faire d'illusions, ce n'était pas le retour à la bonne vieille Amérique que l'on aimait autrefois du temps de Bill Clinton, etc., que le monde changeait, que l'Amérique changeait et que on pouvait avoir des surprises. Donc je dirais, il y a la surprise de l'événement qui a profondément marqué, je crois en tout cas, le ministre. Et puis, il y a quand même une espèce de continuité dans la politique américaine depuis Obama qui fait qu'on ne devrait pas être surpris parce qu'ils nous le disent noir sur blanc depuis 2011. C'est-à-dire, ça fait 10 ans, Obama, qu'il nous dit que le centre de priorité maintenant, c'est l'Asie et que, alors ça, ils le disent pas, mais en sous-entendu, bah, soit les Européens suivent, soit ils suivent pas et tant pis pour eux. Et donc, on n'aurait pas dû être surprise du fait que, pour Joe Biden, le fait que la Chine soit la menace prioritaire, c'était normal, et que donc le fait qu'on crée une alliance en Asie avec l'Australie, en obligeant l'Australie à rompre un contrat qu'elle avait avec la France depuis 2016, finalement c'est normal. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que les Américains ont été vraiment surpris de la surprise française. Ils n'ont pas compris une seconde à quel point ce mauvais coup était non seulement contraire aux traditions diplomatiques, mais était un choc dans la relation franco-américaine. Et je crois que c'est un peu comme tous les pays qui ne sont pas américains. Les Américains ne connaissent pas leur monde. Ils connaissaient rien à l'Irak quand ils sont intervenus, ils connaissaient rien à l'Afghanistan. Il y avait 3 personnes qui parlaient arabe au département d'État en 2000 ans. Donc, ils ne connaissent pas leurs alliés européens, c'est-à-dire ils ne comprennent pas que la France, héritière du général de Gaulle, ait une susceptibilité particulière, en particulier venant des États-Unis. Et ça, je trouve que c'est très grave quand même de la part d'un pays qui a une prétention à un leadership mondial.
Enfin, c'est un peu un mouvement général, c'est-à-dire que pour les États-Unis, les autres nationalismes n'existent pas, ou les autres nations qui veulent défaire leur international sont vécues comme étant rétrogrades, pas ouvertes sur la globalisation, alors que les États-Unis, eux, défendent à la fois l'intérêt national et l'intérêt général dans le même mouvement.
Oui, on peut dire cela, mais quand même vis-à-vis de leurs alliés dans la relation Europe-États-Unis et dans la France, dans la relation franco-américaine, il y avait quand même un tout petit peu plus d'attention. Ils sont censés connaître leurs alliés européens et en particulier la France, pour la tradition française d'être un peu, comme disait Giraudoux, l'ennuyeuse du monde, celle qui est toujours quand même en train de trouver la petite bête qui rompt l'harmonie occidentale, connaissant la France depuis 70 ans maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même extraordinaire qu'il n'ait pas pensé une seconde que les Français pouvaient faire une crise d'un événement qui leur apparaissait à eux simplement technique et stratégique.
Alors, crise, puisqu'il y a le rappel de l'ambassadeur dont chacun a souligné que c'était la première fois depuis 250 ans d'histoire commune. Et en même temps, on a un peu l'impression tout ça pour ça. Philippe Étienne est reparti à Washington. Qu'est-ce qu'il reste donc? Est-ce que business as usual, on revient? Ou est-ce que, selon toi, ça va laisser des traces?
Oh, je pense que ça laissera des traces, très certainement. Alors, simplement, le moment est délicat pour la France dans la définition de, en tout cas dans la réorientation de sa politique à l'égard des États-Unis. Le moment est délicat parce qu'on est quand même en pré-campagne électorale, parce que la France va avoir la présidence de l'Union européenne d'ici 2 mois, le 1er janvier 2022, qu'elle a déjà, dans un passé très récent, avec cette phrase « l'OTAN est en état de mort cérébrale » que le président Macron avait prononcée, je crois, au mois de mai dernier, elle a déjà créé une situation un peu conflictuelle en Europe sur les États-Unis. Donc je pense que l'intérêt aujourd'hui du président de la République, ça n'est pas de redéfinir complètement en bilatéral la relation avec les États-Unis, mais je pense que ça laissera des traces, et qu'en particulier pour ce qui concerne la question de l'évolution de l'Europe stratégique, de l'autonomie européenne, ça sera un argument majeur pour les Français à utiliser pour dire aux Européens, vous voyez, il est plus que temps de jamais d'essayer de construire des minimums d'autonomie européenne, parce que même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Au dernier moment, il y en a toujours un qui arrive et qui, finalement, dément la confiance que vous aviez en lui. Donc je pense que ça va être utilisé comme un solide argument en faveur de l'autonomie stratégique.
On a quand même un peu l'impression qu'on est un peu démunis. Le terme de trahison a été employé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et finalement, est-ce que c'est pas peut-être une erreur de rappeler l'ambassadeur sans avoir prévu dans quelles circonstances on pourrait le renvoyer?
Ah non, moi je ne pense pas. Je pense que, en tout cas, dans l'opinion publique, qui est quand même aujourd'hui le client principal de la politique étrangère, dans l'opinion publique, je crois que cette affaire, même si elle n'a peut-être pas fait la une de tous les villages de France, ça a été ressenti vraiment comme une gifle. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas entre soi-disant alliés. Et donc, je crois qu'il fallait réagir. Moi, je trouve que la France a réagi. Elle a bien fait de réagir comme ça, qu'il fallait marquer le coup. Et comme on n'avait jamais rappelé nos ambassadeurs, le fait de le faire a été vraiment un événement important. Non, je pense qu'on a eu raison, que les sémolles, ça compte dans la relation, en particulier dans les relations entre pays démocratiques. On se bat, entre guillemets, ou on se fait la guerre aussi à coup de symboles, ce qui est un progrès dans l'histoire de l'humanité. Donc je crois que ça compte très profondément. Bon, après, il est évident que rappeler un ambassadeur, il y a toujours un moment où on le renvoie. Mais souvenez-vous, il y a quelques mois, je crois en juin ou juillet, on avait rappelé notre ambassadeur également d'Italie.
Oui.
Et donc on a l'impression que on a le recours plus souvent maintenant à ce type de sanctions. Entre guillemets, mais je ne crois pas que c'était démesuré. Je crois que l'ampleur du mauvais coup fait par les États-Unis à la France, et c'était pas le seul, parce que le mois d'avant, il y a eu le retrait, enfin, la décision américaine de retrait d'Afghanistan au 30 août 2021, décision qui a été annoncée sans aucune consultation préalable au sein de l'OTAN. Alors les Français étaient déjà partis d'Afghanistan, mais enfin quand même, vis-à-vis des Européens, l'OTAN avait le commandement de l'opération Resolute Support en Afghanistan. Il y avait 16 000 étrangers, soldats européens, pardon, en Afghanistan, et les Américains ont décidé tout d'un coup, en 2 mois, bon, on se retire, et au 31 août, on rend le pouvoir aux talibans, sans aucune consultation préalable avec l'OTAN. Et donc, il y a eu deux événements, l'événement collectif avec les Européens, l'événement national avec les Français, qui font que, pour la France, il y a quand même un argument très fort à utiliser pour dire aux Européens, eh bien, arrêtez la naïveté extrême que vous avez vis-à-vis de la diplomatie américaine.
Alors, pour cela, il faudrait que les Européens soient prêts à entendre ce type d'argument. Est-ce que les Européens ils sont pas précipités tout de suite pour soutenir la France? Est-ce que la plupart des Européens se disent, bon, c'est la France qui, c'est une affaire de vente d'armes, ça ne nous regarde pas, et c'est la France qui en subit les conséquences, cela ne nous regarde pas. Est-ce que, vu de Berlin, de Varsovie ou de Rome, est-ce que c'est une affaire française ou une affaire européenne?
Il y a eu une réponse collective des Européens, de critiques, de la diplomatie américaine, qui est intervenue une semaine après, donc c'est dans un rythme européen, c'est un rythme rapide, une semaine, puisque Madame Ursula von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission européenne, avait dit que la façon dont avait été traitée la France était une façon, je me souviens plus de l'adjectif exact, mais qui ne se fait pas. C'était pas normal. Et donc, au plus haut niveau de l'Union européenne, il y a eu une protestation de solidarité vis-à-vis de la France et une condamnation, non pas du fond, mais de l'attitude américaine. Ce qui est curieux, c'est que pour la première fois, l'Europe a été unie, intégrée par le biais de sa présidente, alors que les autres États membres, nationalement, les États membres se sont bien gardés d'intervenir. Il y a eu un silence complet des États membres, mais au contraire, une prise de position collective de la présidente. Donc ça, je trouve que il faut juste le noter. Deuxièmement, donc s'il y a un aspect très bilatéral, ça c'est vrai, mais pour les Européens, quand même, la séquence de juillet-août est quand même une séquence qui doit faire réfléchir, parce que je l'ai dit, il y a d'abord eu l'affaire Afghanistan. Or, quand même, qu'ont fait les Américains immédiatement, avant même de se retirer d'Afghanistan, ils ont donné les clés de la base de Bagram aux talibans. Il y avait 5000 dedans prisonniers terroristes. Les talibans les ont immédiatement lâchés dans la nature. Donc, qui est-ce qui va recevoir les terroristes en premier sur leur territoire si jamais ils franchissent? C'est quand même les Européens. Donc déjà, de la part des Américains, c'est limite comme attention vis-à-vis de leurs alliés, premièrement. Deuxièmement, se retirer d'Afghanistan comme ça, en plein désordre, etc., c'est donner l'Afghanistan comme un cadeau à la Chine, alors sans doute un cadeau empoisonné, peut-être que les Chinois n'en voudront pas, mais quand même, au moment où Biden dit « Ah non, c'est terrible, la Chine, c'est la plus grande menace de la planète, il faut une vraie stratégie indo-pacifique, etc. », donner l'Afghanistan à la Chine, c'est quand même assez perturbant, c'est pas logique. Troisième contradiction américaine, c'est pour ça que moi je trouve que Biden est comme Trump. Contrairement à ce qu'ils nous ont dit au début de la campagne, il est d'un amateurisme exceptionnel. Exceptionnel, il a beau avoir 50 ans de professionnalisme washingtonien, la façon dont il se conduit est d'un amateurisme étonnant. Troisième contradiction, ils font le forcing, vraiment un lobbying incroyable auprès des Européens pour que l'Europe adopte une stratégie sur l'Indo-Pacifique qui n'a aucun sens quand on est l'Union Européenne, mais même quand on est la France personnellement. C'est un autre sujet, mais moi j'ai toujours trouvé que le concept d'Indo-Pacifique n'avait pas de sens, en particulier pour la France, mais pas seulement. Mais bon, il faut un forcing pour que l'Union européenne adopte une stratégie Indo-Pacifique, et le jour où on l'adopte, hop, il signe l'AUKUS, c'est-à-dire le traité entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie. Donc les Européens se disent, mais on ne comprend pas, si, pourquoi ils ne nous ont pas associés? Pourquoi ils font leur stratégie Indo-Pacifique sans nous au moment où on l'adopte? Et puis cette AUKUS, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance informelle? Est-ce que c'est un concurrent futur de l'OTAN? Est-ce que c'est une façon de dire aux Européens, bon, ben, ce qui compte maintenant, ça va être cette association entre trois pays, et si vous voulez nous suivre, ben, vous nous suivez, mais finalement, l'OTAN, c'est la dernière roue du carrosse américain. Autrement dit, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions que les Européens devraient avoir, et pour certains ont, à la suite de cet épisode de l'été 2021, plus l'affaire des sous-marins français, qui montre à quel point l'Amérique est puissante pour tordre le bras à certains de ses alliés contre d'autres de ses alliés. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'Amérique demande à l'Australie, qui est quand même, autant que je sache, membre entre guillemets de la famille occidentale, de trahir le meilleur allié occidental de l'OTAN, qui est la France. Donc ça fait beaucoup de couleuvres, je trouve, à adopter d'un point de vue européen.
Oui, mais ça fait beaucoup de couleuvres pour la France, mais est-ce que les pays comme traditionnellement réticents par rapport au concept de l'Australie, comme la Pologne, est-ce que cette affaire-là va faire bouger la Pologne d'un iota sur l'OTAN, sur l'autonomie stratégique, sur la Russie, ou est-ce qu'ils diront tout ceci est triste, mais finalement on reste comme avant?
La Pologne peut-être pas, mais je dirais, moi ça m'est égal, parce que je ne considère plus que la Pologne est un membre digne d'être dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, donc puisque ça n'est pas une démocratie qui respecte l'état de droit. Mais je ferme cette parenthèse. En fait, il y a deux... Il y a deux options pour les Européens et je pense que la présidence française va être l'occasion de ce débat. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on aura un débat public, pas seulement en France, mais également dans les autres pays européens sur ces deux options. La première, c'est de dire, effectivement, le monde change, tout change, et peut-être que l'Amérique change aussi très profondément. Et peut-être que ça n'est pas raisonnable de penser qu'une l'OTAN qui a été créée en 49 sera toujours là en 2059, en 2049, pour défendre l'Europe. Peut-être qu'il y a quelque chose de fou à parier sur la permanence pendant un siècle d'une institution dont la raison d'être, la menace, a disparu. Et donc peut-être que les Européens, plus tout ce que je viens de dire sur les leçons de l'été 2019, vont se dire, même si on adore les États-Unis, force est de reconnaître que tout change, le monde change, et que donc il faut peut-être penser, nous aussi, à changer notre vision de notre sécurité, et non pas à abandonner l'OTAN, mais à faire en sorte d'aider cet OTAN à évoluer, peut-être, vers quelque chose de plus européen, de moins dépendant de Washington, etc. Et donc, de construire, d'une façon ou d'une autre, soit par une défense européenne autonome, soit par un pilier européen autonome, de construire une autonomie stratégique européenne qui sera capable d'affronter le monde de 2050 et non pas le monde de 1950. Ça, c'est une première version, c'est une première option, c'est l'option défendue par la France, et à juste titre, je trouve qu'on a tous les arguments du monde pour plaider sur le fait qu'on ne peut pas, nous, Européens, penser que le monde change tous les 6 mois, mais que nous, que l'OTAN, lui, restera immortel.
Mais c'est ce que pensent beaucoup d'Européens.
Oui, mais je pense qu'ils ont tort. Et je ne crois qu'il ne faut pas faire injure aux Européens. Nos partenaires ne sont pas stupides. Ils savent très bien que leur raisonnement repose sur de la foi, plus que sur des arguments convaincants. Mais donc, la première option, c'est celle-là. C'est de dire, on va construire une autonomie européenne, soit dans l'OTAN, soit hors OTAN. La deuxième option, qui est celle de nos partenaires européens, à 90%, je dirais, c'est de dire, oui, peut-être, le monde change, l'Amérique change, tout change, mais on n'a pas d'alternative. Ou du moins, l'alternative nous coûterait extrêmement cher. Construire une autonomie européenne serait financièrement significative d'une augmentation des impôts de 10%, pour l'ensemble des pays si on devait reconstruire à zéro un système européen intégré, etc. Donc on n'a pas l'alternative. Donc la seule solution que l'on puisse faire, c'est de garder l'OTAN, tout l'OTAN, rien que l'OTAN, en l'adaptant. Et actuellement, les débats que je vois, c'est peut-être qu'on pourrait inviter les Australiens dans l'OTAN, dans un cadre de partenariat stratégique renforcé. Première option. Donc l'OTAN pourrait être une espèce de maison mère de l'AUKUS, par exemple, plus que les Britanniques.
Se mettre frontalement contre la Chine.
Bien sûr. Deuxième débat dans l'Europe. Alors, si on peut pas mettre les Australiens parce que c'est compliqué, mais peut-être qu'on pourrait évoluer vers une définition de la zone de l'Atlantique Nord, vers une zone de l'hémisphère Nord, par exemple, ou quelque chose de plus vaste. Autrement dit, ceux qui veulent garder l'OTAN absolument pour des raisons à la fois idéologiques et pour des raisons financières, parce qu'il y en a beaucoup quand même, ceux-là sont prêts à faire évoluer l'OTAN dans un sens chinois. Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée américaine que l'avenir du monde, en tout cas dans les 20 années qui viennent, c'est un avenir confrontationnel entre deux grandes puissances, les États-Unis, leader de l'Occident d'un côté, et la Chine, leader de tout ce qu'elle voudra, de dictature autoritaire de l'autre. Et donc, je crois que derrière ce débat sur OTAN ou autonomie européenne, il y a aussi un autre débat que je trouve plus important, qui est presque philosophique, c'est sur quel monde voulons-nous dans les décennies qui viennent.
Est-ce qu'on veut un monde... On voit bien quand même les solutions de remplacement, dire on pousse les Russes dans les bras des Chinois, ce que fait un peu quand même le monde occidental, et après on s'offusque cette alliance. C'est ce que vient de faire le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui dit attention, il y a une alliance russo-chinoise, il faut que l'OTAN réagisse, mais du coup... C'est un cercle vicieux et on suscite la menace dont on se plaint.
Absolument. Autrement dit, si on est persuadé que l'avenir du monde, c'est de nouveau un affrontement binaire entre nous, les démocraties, et la Chine autoritaire, on a intérêt à tout classer dans ces deux camps. Et donc, les Russes, ça va avec la Chine, et puis les Saoudiens, ça va avec l'Occident, c'est clair.
Comment sortir de cela? Parce que finalement, c'est la voie express vers le choc des civilisations.
Oui, alors, en tout cas, c'est la voie express vers un monde qui n'est pas le monde réconcilié par la mondialisation.
Comme si l'OTAN avait besoin d'un ennemi pour continuer à exister.
Oui, mais je crois que l'OTAN n'a pas réussi la transformation qu'elle pourrait... Elle aurait pu faire en 90-91, quand l'Union soviétique s'est effondrée. L'OTAN aurait pu, d'ailleurs c'était une idée du président Mitterrand qui l'a mal exprimé quand il a parlé de la Confédération européenne, mais il y avait quand même cette idée en France de dire on peut pas garder une organisation, enfin une division de l'Europe en deux avec une organisation militaire d'un côté, axée contre un ennemi qui a disparu de l'autre, et que donc ce qu'il fallait c'était essayer de penser la maison commune, comme disait Gorbatchev, ou la Confédération européenne, comme disait Mitterrand. Le problème de Mitterrand, c'est qu'il excluait les Américains de cette reconstruction européenne. Moi, je crois qu'il faut effectivement reconstruire une architecture de sécurité européenne avec les Américains, puisque tout le monde considère que l'Amérique est une puissance européenne. Et l'OTAN a raté cette phase de transition. L'OTAN aurait pu devenir une espèce d'OSCE occidentale, extrêmement puissante, qui aurait été l'organisation qui accompagnait la transition libérale et démocratique de toute la partie, en tout cas peut-être pas toute la Russie, mais toute la partie occidentale de la Russie. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu le faire, parce qu'à l'époque, il faut bien reconnaître, tout le monde était dans une espèce d'hubris de la victoire, on a gagné, l'Union soviétique s'est effondrée, c'est nous les maîtres du monde, et la Russie n'a plus qu'à se plier à nos injonctions. Donc là, je crois que l'OTAN a manqué véritablement...
C'est une occasion historique manquée pour sortir de la guerre froide.
Oui, absolument. Depuis, le monde est devenu tellement incertain, ça n'est plus la menace unique collective qui fragilise ou qui rend les Européens vulnérables. C'est la somme des incertitudes stratégiques qu'il y a au nord avec la Russie, au sud avec toute la déstabilisation que l'on connaît au sud, plus le terrorisme, plus les vagues des réfugiés qui ne sont pas des victimes mais créent de l'extrême droite chez nous, donc ça devient une menace sociale, etc., etc. Donc il y a plus la cyber, plus tout ce que vous voulez. Il y a une telle accumulation d'incertitudes stratégiques que du coup l'OTAN retrouve une raison d'être. Et moi, je dirais que plus ça change, plus c'est la même chose. Quand il y avait une menace massive contre les démocraties, l'OTAN était justifié. Quand il n'y a plus de menace, mais que tout est possible, y compris une pandémie, y compris un extraterrestre qui arriverait un jour, bien l'OTAN reste justifié, parce qu'après tout, on ne sait jamais, ça peut servir. Et dans les deux cas, l'OTAN trouve effectivement aujourd'hui, pour les Européens, une vraie légitimité qui est bien au-delà de sa valeur militaire.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec 60 milliards de dépenses militaires, la Russie est une menace militaire pour les pays européens de l'OTAN ?
C'est pas le niveau de dépenses militaires qui fait la menace. Ça, je ne crois pas. D'autant que la Russie a très fortement modernisé son appareil militaire sur les 10 dernières années. Il était en ruine quand l'Union soviétique a disparu. Poutine a été l'artisan d'un redressement militaire tout à fait spectaculaire, dont on a eu un exemple au Moyen-Orient en 2017, quand tout d'un coup on a vu les forces aériennes russes arriver en Syrie. On s'est dit, la Russie est redevenue une puissance militaire importante. Donc je crois que c'est pas lié au budget, là, la perception d'une menace russe. Et ce qui rend la menace russe encore d'actualité, en particulier pour les pays qui sont des ex-satellites de l'Union soviétique, mais pas seulement, ce qui rend la menace russe d'actualité, c'est que Vladimir Poutine, donc le dirigeant de la Russie, remet en cause systématiquement, alors non pas les frontières de l'Europe de l'Ouest, mais les frontières de cette partie du continent qui était son ex-empire et qu'il n'a pas envie, je crois, d'annexer, mais qu'il veut maintenir dans un état d'instabilité permanente. Je crois que la stratégie de Poutine aujourd'hui, c'est pas de reconquérir l'ex-empire, c'est de déstabiliser tellement des territoires du milieu, c'est-à-dire de l'Ukraine, Biélorussie, en passant par presque les Balkans et jusqu'au Caucase, c'est d'y créer une sorte d'inquiétude stratégique permanente, ce qui fait que ces pays sont complètement paralysés. Et c'est comme ça, je crois, qu'il espère garder une emprise sur ces pays. Moi, je ne crois pas à la reconquête territoriale. Je ne crois pas à la menace militaire. Mais cette menace d'intimidation, on ne sait pas vraiment si c'est une attaque ou pas, quand il envoie des camions humanitaires avec des hommes des services de renseignement dedans, qui déversent des armes au lieu de déverser de l'humanitaire et qui aident des mouvements fascistes en Ukraine, dans le Donbass, en Crimée. Enfin, ce genre d'activités qui ne sont pas des actes d'agression immédiatement identifiables, donc qui vont prêter à controverse, etc. Ça, c'est une menace qui fait peur, parce que on peut pas dire que ça relève de l'article 5, on peut pas dire que les Russes attaquent, on peut pas dire que les Russes ont attaqué l'Ukraine ou qu'ils vont attaquer le Donbass, mais ça crée une incertitude stratégique qui fragilise ces pays, et je crois que c'est comme ça que Poutine veut garder son emprise. Donc, c'est une menace d'un nouveau genre, et d'autant plus d'un nouveau genre, qu'il ne faut quand même pas oublier que les Européens sont dépendants à 70% de leur approvisionnement énergétique de la Russie d'un côté et du Moyen-Orient de l'autre. Donc on est dans une situation où mon meilleur ennemi est aussi mon meilleur partenaire énergétique.
Merci Nicole Isotto. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et que vous sortez aux éditions Taillandier en janvier 2022 un livre intitulé « L'Europe demain ».
Merci beaucoup.